décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 46, salut Manu.
Salut Luc.
Bon, on est tous les deux.
Oui, entre nous.
Voilà. Donc le sommaire...
6 jolis articles.
Donc Midi Libre, le premier café numérique à la ruche, le web dans tous ses états, un article de la rédaction je suppose.
Oui, donc ça se passe en Occitanie et c'est un café numérique où ils se réunissent pour présenter à des citoyens intéressés, des associations locales, donc les problématiques des données privées et des logiciels libres, donc c'est intéressant. Et il y a de ça un petit peu partout en France, donc renseignez-vous.
C'est ça, le travail de terrain qui fait toute la différence. Encore une fois, bravo à vous tous. 24 heures, des horlogers mettent au point un mouvement gratuit. Un article d'Ivan Raja.
Alors, j'ai eu un peu de mal quand j'ai vu l'article en premier, je te l'avoue.
Donc, par mouvement, on entend un mouvement d'horlogerie, c'est-à-dire un mécanisme.
Ah, voilà, bon, bah, je comprends mieux. Et donc, il y a des horlogers qui ont développé un mécanisme d'horlogerie libre.
Voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant cet article-là, puisque manifestement... Alors, on s'en doute très compliqué et très long de mettre au point un mécanisme de ce type-là.
Il a l'air d'en exister assez peu sur le marché, on va dire.
Exactement. Et donc, jusque maintenant, il s'appuyait sur des gros horlogers comme Swatch ou des choses comme ça pour leur acheter des licences. Et ensuite, bah, c'est des gens qui font des montres, hein, qui font tout ce qui est autour, tout ce qui est joli, etc. Mais ils utilisent le mécanisme. Et là, Swatch a dit, bah, nous, on arrête de le vendre, on le garde pour nous.
Oui.
Et ils commençaient à se sentir un petit peu à l'étroit et un petit peu en position vulnérable.
Donc, il y a des gens assez motivés pour développer tout ça et surtout le proposer sur Internet à tous ceux qui sont intéressés.
Oui, donc je suppose que les horlogers sont mis ensemble pour se dire, bah, si c'est comme ça, on mutualise nos moyens et on va se créer notre propre mouvement, notre propre mécanisme.
Donc ça fait plaisir.
Bel exemple de voir comment une foule de petits peut s'organiser, réussir à prendre la main sur quelque chose qui est normalement difficile à obtenir quand on est tout seul. Slice 42, GitHub Archive Programme, préserver les logiciels libres pour le futur, un article d'Arnaud.
Alors, c'est quelque chose d'intéressant, même si GitHub reste problématique, entreprise qui a été rachetée par Microsoft il n'y a pas très longtemps. Donc GitHub, une entreprise qui héberge du logiciel libre, est plutôt intéressante de ce point de vue-là, et qui se propose de les héberger de manière pérenne, visant le long terme, et donc ils veulent héberger dans, du côté du pôle Nord.
Voilà, pendant 1000 ans.
Donc c'est ambitieux, on apprécie. Il y a d'autres projets qui font ça, en France notamment. Il faudrait qu'ils se coordonnent un petit peu pour procéder.
Alors, je suppose que c'est lié aux technologies de Microsoft qui viennent de mettre au point une méthode pour graver du verre et pour pouvoir lire les informations sur des centaines et des centaines d'années. Mode d'emploi, recrutement et méthode de travail, ce que la communauté open source nous apprend, un article de Stéphanie Davalo.
C'est le résultat de conférences qui se sont déroulées il y a assez peu de temps, Blend Web Mix, et notamment un gars de chez Adobe, mais qui fait du logiciel libre, qui présente du logiciel libre, et qui indique qu'avec toutes les nouvelles méthodologies qu'on rencontre dans l'open source en général, eh bien, les entreprises évoluent, changent, et notamment dans leur manière de recruter et de travailler. Donc des choses assez intéressantes à aller lire.
Numerama.org, l'un des plus vieux domaines du net en danger. Question posée donc par Julien Leçon.
C'est assez perturbant, nouveau, je ne savais pas ce dont il s'agissait il y a encore peu de temps. Les extensions.org sont en train d'être privatisées. D'habitude, c'est une association qui les gérait. Mais cette association est en train de se vendre à une entreprise et ça fait hurler plein de monde, dont l'April. Parce que bah, le .org, c'est une extension qu'on utilise beaucoup pour les associations notamment. Ça fait un petit peu peur de l'avoir passé sous une coupelle qui notamment risque d'augmenter les prix.
Le monde informatique, l'open source et le syndrome du parasite. Un article de Dries Butiart, donc un nom de flamand. Quoi.
Oui, et un article très très intéressant et je te propose qu'on parle de cela, et on parle de parasitisme.
Très bien, parlons de parasitisme. Alors comment va ta santé Manu?
Ça va très bien, alors bon, c'est un sujet qui est vaste, mais dans le monde du logiciel libre, c'est un sujet récurrent. Le parasitisme... Alors, qu'est-ce que c'est que parasite pour toi ?
Un parasite, c'est un organisme qui va prospérer au détriment d'un autre organisme.
Et effectivement, c'est ce qu'on peut rencontrer dans beaucoup de domaines économiques, dans le domaine du développement. C'est quand il y a des logiciels qui sont développés par des communautés, par exemple, ou certaines entreprises, et d'autres les récupèrent à leur avantage et vont en tirer avantage sans reverser à la communauté, sans reverser à qui que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré assez souvent dans le passé.
Oui, et c'est souvent l'objection qui est faite quand on explique les principes du libre, hein, puisque libre n'est pas gratuit, mais ça peut l'être quand même. Et effectivement, on peut tout à fait prendre le logiciel libre de quelqu'un et le revendre et faire de l'argent avec. Et ça, souvent, quand on l'explique, les gens disent « mais c'est pas possible, on peut pas fonctionner comme ça ». Et on a toute une série d'explications pour dire si, pourquoi c'est bien d'autoriser l'exploitation commerciale.
Alors ça n'empêche qu'il y a quand même des parasites techniquement qui peuvent être dans cet écosystème.
Effectivement, alors on pense notamment à l'affaire Heartbleed, qui il y a quelques années, on en avait beaucoup parlé, Donc, il s'agissait d'un petit logiciel dont j'ai oublié le nom.
SSL.
Oui.
OpenSSL.
OpenSSL qui, en gros, est le cadenas qu'on mettait sur les connexions Internet hein, pour sécuriser tout ça.
Donc, c'est un truc indispensable à toute connexion
sécurisée. Utilisé par des millions, voire des centaines de millions de sites dans le monde. Et développé par une bande de gars bénévoles.
Je crois même qu'au final, il y en avait surtout un qui était le développeur oui. principal, qui faisait quasiment tout seul la gestion et les mises à jour et les corrections, notamment. Voilà.
Et donc, il s'est avéré qu'il y avait une faille là-dedans, et ça a posé de très très gros soucis. Et tout le monde s'est aperçu que la quasi-totalité du web mondial, quasi-totalité, j'exagère, mais...
Une grosse partie quand même, et surtout
grosse majorité,
une partie importante, et notamment partie... là où il y a l'argent.
Voilà, tout à fait, hein, les GAFAM, les machins. Utiliser massivement un truc développé par un gars tout seul dans son coin qui ne gagnait pas un centime avec.
Et donc là, on pourrait considérer que le reste du monde était un parasite sur le dos de ce gars.
Des très 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 gros parasites, puisqu'il faisait beaucoup beaucoup d'argent sans même lui reverser le moindre centime. Alors, pour cette affaire particulière, il s'était dit, on pourrait peut-être lui filer 100 000 dollars par an, ça ne va pas nous coûter grand-chose, et puis ça nous éviterait d'avoir un truc qui a été codé par un gars tout seul, ce qui n'est pas le gage de qualité ultime.
Donc on s'est rendu compte du problème et il y a eu des solutions qui ont été mises en avant.
Mais des trucs équivalents, il y en a plein d'autres. On en a rencontré dans nos interventions quand on va dans des lieux, etc. et qu'on rencontre des libristes. Voilà, il y en a qui font des trucs qui sont plutôt à visée professionnelle ou pas mal utilisés par des boîtes et qui ont zéro derrière et avec des boîtes qui font de l'argent, font leur business et sont bien contents de trouver du logiciel libre et gratuit et se sentent pas tellement obligés de reverser.
Alors, je vais jouer un peu au troll. Tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce qu'une entreprise comme Apple, par exemple, qui intègre dans son système d'exploitation beaucoup de briques libres, un noyau libre et beaucoup de logiciels libres, mais qui souvent ne reverse pas, et ne reverse pas notamment dans ces éléments-là, est-ce que c'est un parasite ?
Alors, on pourrait dire que oui, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, il ne reverse pas, mais en même temps, c'est le principe de la licence, on a le droit. Mais Apple a beaucoup utilisé des logiciels avec des licences non copyleft, donc la licence prévoit qu'ils puissent refermer le code, et on pourrait dire d'une certaine façon, s'ils prennent le code à un moment, puis qu'après, ils en font leur chose et qu'ils travaillent dessus, c'est une forme de parasitisme, mais ce n'est pas un parasitisme qui dure. En revanche, les gens qui prennent le petit logiciel et qui disent « Bon alors, la prochaine version, elle fait quoi ?» et qui ne versent rien, c'est un peu du parasitisme, oui.
C'est lourd, hein, c'est le passager clandestin aussi, on dit parfois.
Alors en anglais, dans la notion économique, c'est le free rider, donc c'est le cavalier qui voyage gratuitement en fait.
Donc c'est coûteux. On sait aussi qu'économiquement, il y a beaucoup de choses qui sont développées sur ces concepts-là. Et notamment, c'est un vieux concept économique, c'est la tragédie des communs. Et la tragédie des communs, ça parle largement de ces problématiques de parasitage. Notamment quand il y avait un pré en commun dans un village et que tout le monde emmenait ses bêtes sur ce pré, au point que ce pré, il n'avait plus d'herbe et il ne servait plus à rien. Et ça, on a considéré que c'était la théorie ultime qui gérait tous les communs. Et on a considéré que cette tragédie des communs, c'était une généralité.
Ouais, et qu'il fallait nécessairement soit mettre de la propriété privée pour qu'il y ait un propriétaire qui fasse tomber la thune, soit qu'il y ait une gestion publique. Et évidemment, les libéraux préfèrent la propriété privée.
Et c'est un mécanisme qui a été mis beaucoup en place, notamment en mettant des barrières, des barbelés autour des champs.
Tout à fait. Donc Elinor Ostrom, dont on parle régulièrement ici,
qu'on aime beaucoup,
donc, voilà, qui était donc une économiste qui a travaillé sur les communs, est allée sur le terrain, un truc que les économistes habituels ne font pas.
T'es mauvaise langue.
Non, je suis pas mauvaise langue, j'avais lu un article là-dessus. Il y a une étude qui avait été faite sur les méthodologies et dans les recherches en sciences sociales et qui démontrait que, faudrait que je retrouve, mais c'était il y a longtemps, que l'économie était la discipline qui allait moins voir le terrain.
Ça paraît crédible qu'on voit ce qui sort régulièrement.
Et donc, elle avait trouvé des exemples en disant, regardez, dans la réalité, l'exemple que tu donnes, les prêts, mais beaucoup aussi sur la question de l'eau. Il y a des tas de systèmes qui existent depuis parfois plus de 1000 ans, de gens qui arrivent à réguler cette ressource rare.
Donc, sans passer par la propriété privée, mais sans passer non plus par une autorité publique.
Tout à fait. Mais un des critères qu'elle avait remonté, c'était notamment que s'il y avait un acteur beaucoup plus gros que les autres, ça ne marchait jamais. Et donc, ça ne fonctionnait que quand chaque acteur était à peu près d'une taille équivalente et pouvait discuter d'égal à égal. Or, on est dans un monde avec d'énormes machines, avec des GAFA,
des acteurs phénoménalement gros.
Voilà, qui sont terribles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, en même temps, ils partagent beaucoup entre eux. Et les GAFAM profitent en tant que parasites du logiciel libre, mais elles contribuent quand même malgré tout, et elles contribuent entre elles.
Oui, moi je connais des briques de logiciels que j'utilise dans mon travail, qui viennent de Google, qui viennent de Facebook, et qui sont parfois même très bien.
Toutes les GAFAM n'existeraient pas sans logiciel libre, parce que si elles devaient payer une licence pour chaque base de données et chaque système d'exploitation, ça ne serait jamais rentable, et en plus de ça, elles ont besoin de les bidouiller parce qu'elles font des trucs très compliqués, et elles ne pourraient pas le faire avec du propriétaire. Donc, elles profitent du libre,
oui.
Elles contribuent au libre, mais uniquement dans leur environnement à eux, Donc ça veut dire que les libertés dont elles bénéficient, elles n'en font pas profiter leurs clients.
Et en tant qu'entreprise, souvent, leurs contributions sont quand même avec des orientations qui leur correspondent. Oui. Ce ne sont pas des briques qui viennent de nulle part.
Ce qui est légitime, d'une certaine façon.
Donc, alors quelque part, on pourrait aussi dire que finalement, pour la communauté du libre, ce n'est pas forcément gênant. Et ce parasitage qui a une connotation très négative... Souvent, on s'en fiche.
Bah, ça dépend ce que tu appelles la communauté du libre. Alors, on parle souvent de la différence entre open source et logiciel libre. Open source, c'est effectivement cette démarche de dire ça m'intéresse d'un point de vue purement technique.
Pragmatique.
Et après, je peux être un GAFA, mais enfermer mes utilisateurs et faire des prisons de la pire espèce. Et voilà toutes les horreurs qu'on connaît sur les GAFAM. J'utilise du libre, mais c'est pour moi. Les autres n'ont pas le droit. Nous, libristes, on est censé défendre la liberté de l'utilisateur, ce que ne font pas les GAFAM.
L'éthique.
Oui, une certaine forme d'éthique, on en a parlé la semaine dernière.
Régulièrement. Hein.
Et donc, j'ai cette formule que j'aime bien, qui est de dire le logiciel libre, c'est le logiciel qui est trop bien pour le grand public, puisque les GAFAM en profitent, mais n'en font pas profiter les gens qui sont ses clients, et qui sont ses clients au sens, elles les possèdent.
Et elles les enferment.
Voilà, elles les enferment, et les clients appartiennent aux GAFAM.
C'est des cages dorées, et effectivement, une fois qu'on est chez eux, ils vont tout faire pour s'assurer qu'on y reste, et ça marche pour notre attention, ça marche pour notre temps, nos clics. Et effectivement, ça peut aller très loin. C'est de la manipulation psychologique, donc qui est très réfléchie.
Tu voudrais dire qu'ils sont en train de nous sucer le sang et notre énergie vitale, c'est ça ?
Alors, ce serait peut-être un parasitage clair.
C'est un deuxième niveau de parasitage, effectivement.
Alors, quand ça se passe bien, on pourrait parler d'une symbiose. Donc, si vous y trouvez votre plaisir à être dans ces cages dorées, pourquoi pas ? Et puis, après tout, chacun est libre d'y aller et d'y rester. Mais effectivement, c'est bien de s'en rendre compte et de voir qu'il y a des problèmes derrière tout ça.
Ouais, c'est un peu comme les moutons, en fait. Mais oui, parce que les moutons, on va dire, oui, mais c'est une symbiose, parce que le mouton, on s'occupe de lui, on lui donne à manger, on le soigne, etc.
Il n'y a jamais eu autant de moutons dans le monde.
C'est vrai. Mais en même temps, bon, d'une part, on le bouffe de temps en temps. Hein.
Ça, c'est sûr.
Ensuite, le mouton tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas un animal naturel. C'est un animal qui a été formé par la sélection génétique. Les moutons qui existaient avant qu'on fasse des sélections, ben, ils ne faisaient pas autant de laine, hein, parce que voilà, ça ne sert à rien. Et donc, aujourd'hui, un mouton ne peut plus vivre indépendamment de son éleveur parce qu'il fait trop de laine et du coup, il peut avoir des infections et il pèse une tonne, etc.
Il mourrait dans la nature. Hein, et voilà. Clairement, les moutons modernes n'arriveraient pas à exister tout seul.
On en retrouve régulièrement. Il y a des histoires du mouton qu'on a perdu il y a 2 ans et il revient, il est énorme. Tout ce petit détour pour expliquer que, bah, à force d'être dans une prison dorée, on finit par être soi-même formé par ce truc-là, déformé. Et notre propre réalité, notre propre rapport au monde est déterminé par ce système-là.
On est sélectionné comme les moutons. Et notre laine qu'on continue à produire, on ne fait plus que ça. Et on peut y trouver de notre bonheur, hein, éventuellement, mais comme un mouton dans un pré.
Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est pourquoi le grand public est parasité plutôt que d'être libre et d'être dans un système de symbiose. Eh bien, c'est notre incapacité à nous organiser collectivement. C'est-à-dire que les GAFAM, avec le capitalisme et tout ce système, voilà, est capable de nous faire rêver, de nous donner envie, de nous filer des produits qui sont très bien pensés, même s'ils sont là pour nous exploiter. Et nous, en face, on n'a pas cette capacité à s'organiser, à aller mettre un peu d'argent dans les projets, parce qu'on parlait des entreprises qui ne payent pas, mais nous, les premiers, on utilise plein de logiciels libres sans nécessairement leur donner des sous. J'essaie d'en donner de temps en temps. Ben, on pourrait imaginer avoir des tas de logiciels, des tas de services sur Internet qui soient super, qui soient simples, parce qu'ils n'auraient pas besoin de nous enfermer, ils n'auraient pas besoin de récupérer nos données, de nous forcer ou essayer de nous contraindre ou de nous inciter à venir plus souvent. Et tout cet argent, on le dépense déjà, parce que les GAFAM vivent, pour une bonne partie d'entre elles, sur la publicité. Donc cet argent, on le dépense déjà en publicité.
Il vient forcément du grand public à un moment donné. Il peut pas être inventé comme ça. Moi, je suppose qu'on est dans une phase encore de transition, toujours dans des phases de transition, c'est clair. Je pense que les travaux d'Eleanor Ostrom, qui a gagné un prix Nobel, hein, rien que ça.
C'est pas un prix Nobel, mais c'est le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, ce qui n'est pas un prix Nobel.
Prix Nobel d'économie, monsieur. Et donc, ce genre de travail-là peut changer les mentalités, peut-être faire évoluer la façon dont certains économistes voient le monde et enfin leur faire remarquer que la gestion par les communs, c'est une gestion tout à fait notable, qui fonctionne et qui peut fonctionner. Il y a des conditions pour cela, mais qu'il ne faut pas le mettre de côté et se concentrer que sur le capital ou le public. Non, non, la propriété et les biens communs, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'utile et qu'on peut développer d'autant mieux qu'on le comprend.
Alors, en tout cas, moi, je pense que c'est important de rêver et que c'est important de viser une utopie parce que, de toute façon, au pire, ça ne va pas marcher. Pour ceux qui peuvent se le permettre, mettez juste 10 euros.
Ça pourrait aider plein de projets.
Voilà, et peut-être, si on est suffisamment nombreux à le faire, ça peut donner un bon point de départ et peut-être qu'on arrivera un jour à être maître de nos propres vies.
Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Manu. Salut.